Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en ce jeudi 5 décembre, jour de grève nationale, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Finn et Astrid. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux services civiques au sein de notre radio, Radio Campus.
Oui.
Et puis Mélissa Plivikwis, chargée d'antenne de Radio Campus Tours. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette émission est consacrée à la radio du futur. On va déjà regarder dans le rétroviseur. Et vous allez me dire, en recherchant dans vos souvenirs d'enfance peut-être, quelle est votre découverte de la radio? Comment est-ce que vous avez découvert la radio la première fois?
Astrid, je commence.
Vas-y Astrid.
Alors, moi je me souviens toujours que mes parents écoutaient la radio en voiture. J'ai des souvenirs musicaux. Je pense avoir toujours... je pense même que mon goût pour la musique a commencé grâce à la radio et ce que j'entendais dans la voiture. Après, un souvenir particulier, c'est pas forcément très... mais en fait, je me souviens juste rentrer de l'école et entendre un animateur de radio annoncer que Michael Jackson était décédé en 2009. Et ça m'avait marqué parce que c'était passé aussi à la radio. Voilà.
Finn.
Pour moi, mon premier souvenir de la radio, c'est probablement d'être dans la voiture de mon père en train d'écouter. C'est une chaîne qui s'appelle C-SPAN aux États-Unis. C'est la chaîne politique. J'étais née à côté de Washington et c'est le chaîne qui, en live, va diffuser toutes les sessions du Sénat, de la maison, de n'importe quoi, souvent très ennuyant. Mais ils ont utilisé un certain type de compression très classique de radio. Et dans la voiture, quand j'étais petit, souvent j'étais un peu malade. Alors maintenant, quand j'entends ces compressions, j'ai aussi la sensation d'être malade, comme si je suis dans une voiture. Ma mère a écouté beaucoup de musique classique et chaque matin, pendant une heure, sur une chaîne, il y avait une radio française. Quand on était en train d'aller à l'école, ma mère a écouté cette radio. Et juste après, c'était un radio chinois. Alors, il y avait une transition très vite entre le... Je pense que c'était le radio du soir, la veille, français, qui allait jusqu'au radio chinois, je sais pas. Alors on a écouté beaucoup la radio.
Mélissa.
Alors je commence juste par réagir sur ce que disait Finn, cette idée qu'un son peut provoquer un malaise, enfin un mal-être en tout cas. Ça me fait penser aux travaux d'Oliver Sacks qui a travaillé sur la musicophilie et sur l'horreur de la musique et sur le fait que certaines personnes ont des crises d'épilepsie déclenchées par certaines musiques. Donc ce soit des crises d'épilepsie complètes ou en tout cas des malaises, de s'en sentir malade ou mal quand ils écoutent certains sons et certaines musiques. Donc ça me fait penser à ça. Et voilà, donc c'est pas que je suis heureuse d'apprendre qu'une radio peut avoir cet effet-là, c'est pas ça, mais... Voilà, je me dis que tiens, la radio aussi a ce pouvoir en fait sur les gens, sur le ressenti, sur les émotions. On peut induire ça chez les gens. Et je trouve que c'est intéressant. Peut-être qu'on peut l'utiliser bien, positivement, pour rendre les gens heureux, pour les faire se sentir bien. Et ça ne répond pas du tout à la question. Je m'en excuse, tu le couperas au montage.
Non, il n'y aura pas de coupe parce que ton intervention était intéressante.
Bon. Oui, c'est quoi la question? C'est comment j'ai écouté la radio?
La découverte, ton premier souvenir concernant la radio?
Eh bien, en fait, il y avait plein de gens qui écoutaient la radio autour de moi. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun écoutait une radio différente. Donc, en fait, la radio était liée à des espaces-temps et à des personnes et aussi à des ressentis. Parce que je pense par exemple dans la voiture de telle personne, c'était toujours cette chaîne-là, par exemple Chérie FM, où c'est des musiques assez vieillottes, anciennes. Donc là, il y avait une ambiance de voiture, de rouler dans la campagne sur cette musique vieillotte, donc ça fait une espèce d'ensemble. Il y avait par exemple chez telle personne, c'était toujours RTL. Donc avec, pareil, une compression particulière, des voix particulières, un peu « oh 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 », comment dire, la valise RTL, des jeux, voilà, donc il y a ça. Telle autre personne, c'est France Culture, telle autre personne. Et en fait, ça découpe le temps et l'espace en fonction de la radio qui est écoutée. Donc il y a une espèce de magie. Pour moi, la radio, quand j'étais enfant, je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée de comment ça marchait. Par contre, j'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de magique qui permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Et dans ma chambre, j'avais un poste Et donc le poste, en fait, je le cache. J'avais un gros et un tout petit poste, et le petit poste, je cachais sous mon oreiller. Comme ça, j'écoutais en cachette la radio la nuit. Et ce qui était génial, c'est que je comprenais absolument pas pourquoi, mais quand je tournais le bouton, et ben, soudain, je me mettais à entendre RAP, en fait, la radio, radio antenne portugaise qui est à Tours. Donc ça parlait une autre langue. Donc c'était comme si j'avais voyagé dans l'espace et que j'entendais l'autre bout du monde. Alors qu'ils étaient là, en fait, c'était pas très loin, mais j'entendais ça. Si je tourne encore, j'entends la radio antillaise. Donc là, c'est encore autre chose. Et comme ça, j'avais l'impression que je pouvais voyager dans le temps et dans l'espace. Et c'était vraiment magique. Et vraiment, la radio que j'ai écoutée beaucoup, qui m'a plu le plus, c'est France Culture. Alors, ça fait un peu snob de dire ça, mais cependant, ce que j'aimais, c'est que c'était des gens qui parlaient et qui s'adressaient à. J'avais vraiment l'impression qu'ils parlaient à tous les gens qui les écoutent. Donc moi, mais la voisine, je ne sais pas qui d'autre. Et je trouvais que, pour moi, la magie de la radio, c'était plus ça, en fait, qu'il y ait quelque part des gens qui parlent à d'autres. Et ça me touchait beaucoup plus que la musique. Donc là, pour moi, la radio, c'est vraiment la voix. C'est des gens qui parlent. Et j'ai absolument rien contre la musique, hein. C'est pas ça. Mais dans mon idée, c'est la radio, c'est d'abord de la voix.
Merci. On poursuit. Est-ce que vous pourriez décrire à nos auditeurs, auditrices, votre première expérience radiophonique derrière le micro, comme c'est le cas aujourd'hui, la première fois que vous êtes passé à l'antenne, sur une antenne? Alors, Astrid.
Oui, alors du coup, moi, c'était en première au lycée. Il y avait une sorte de projet, justement, en rapport avec la radio. Et j'ai eu l'opportunité de faire une émission sur, avec deux de mes copines de classe à l'époque sur l'histoire des blacks, enfin des Américains noirs. Et donc, du coup, on pouvait aussi choisir trois musiques qui expliquaient bien aussi l'histoire des Noirs américains. Et donc du coup, bah, c'était la première fois qu'on était passé à la radio. Et j'avais beaucoup apprécié cette expérience.
C'était quelle radio ?
Eh bien, je me souviens plus, justement.
Dans quelle ville ?
Bah, c'était à Orléans, c'était quand j'étais à Janzay. Mais on n'était pas passé sur Radio Campus. Je me souviens plus sur quelle radio on était passé, par contre. Oui, désolée.
Il n'y a pas de mal. Finn ?
Alors moi, c'est un peu compliqué. J'ai travaillé dans une station de radio pendant 3 ans, mais j'ai fait que de la montage. Je suis très fort en montage et c'est la chose qui me plaît le plus, de travailler sur les voix des autres, de faire que quelqu'un a une... C'est comme s'ils ont bien dormi, ils ont fait une super travail avant, juste par des petits changements, de prendre l'espace entre les mots, ou si quelqu'un dit pendant 30 secondes, enlever ça. S'il y a un peu comme une jouet de faire ça, que j'adore. Alors j'ai commencé à faire ça, et mon premier souvenir de ce travail-là, de vraiment tomber amoureux avec ça, c'était 2 heures le matin, et on était en train de faire des émissions, de recouper des émissions pour envoyer ça, pour avoir des awards, de gagner quelque chose, ou au moins montrer quelque chose. Et j'ai trouvé que j'étais très fort dans cette matière. Mais pendant ces 3 ans, je n'ai pas vraiment parlé sur la radio. J'ai parlé 2 fois. C'était un peu exceptionnel. La première fois, c'était pendant l'élection en 2000, de Trump. On a fait en direct, en live pendant toutes les élections. Et j'ai fait les interviews avec des gens. Et après, on a fait... j'ai passé, à minuit ou 11 heures pendant 30 minutes. Et le deuxième... Non, il y avait 3 fois. Le deuxième fois, c'était pendant nos... il y a un défilé pour Noël. Chaque année, c'est quelque chose... C'est un événement qu'on fait. Et j'ai parlé pendant celle-là aussi. C'était... Tout le monde était un peu, écoute bien, parce que voilà. Et après, la troisième fois, c'était pendant...
Alors, je voulais juste savoir la première, hein, fille.
Ok.
Voilà. Mélissa, la première fois que tu es passée à l'antenne.
Eh bien, c'était dans une émission de cinéma, parce que moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup écouté la radio, et jamais je m'étais dit, tiens, mais moi aussi, je peux faire de la radio. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et en fait, c'est quand j'étais étudiante, une copine de promo qui, elle, était bénévole à Radio Campus. et qui m'a dit ah, est-ce que tu veux venir faire une chronique de cinéma dans l'émission de cinéma. Et je me disais, mais comment c'est, en fait, c'est aussi facile que ça d'aller parler à la radio. C'est aussi simple que d'aller pousser la porte du studio, s'asseoir et puis on dit n'importe quoi. Enfin, en tout cas, on essaie de ne pas faire ça à l'antenne. Et alors, oui, une chronique de cinéma, je ne me souviens pas du tout de quel film je parlais. Par contre, je sais que ma chronique était beaucoup trop longue et que ça ressemblait plus à une dissertation qu'à une chronique. À mon avis, c'était affreusement ennuyeux. Et je pense que personne n'a osé me dire dans le studio que... qui perdait le fil, quoi. Vraiment que c'était trop long, c'était ennuyeux. En plus, je me souviens que j'avais pas de casque. Et quand j'ai pas de casque, en fait, j'ai énormément de mal à savoir si je parle dans le micro, si on m'entend bien, et quoi. Donc, en fait, ma voix part dans les aigus. Et quand je réécoute des enregistrements, je sais quand j'ai pas de casque, parce que je suis là, et donc je vois tout de suite.
D'accord.
J'espère que cette chronique est perdue et qu'on ne la retrouvera jamais dans les archives de la radio.
Je ne vais pas revenir sur les parcours de chacun par rapport à la radio. Je rappelle que Finn et Astrid donc, sont en service civique à Radio Campus, que Mélissa est chargée d'antenne de Radio Campus Tours. Le thème de cette émission, c'est la radio du futur. Comment est-ce que vous envisagez, comment vous rêvez la radio du futur ?
Je vais commencer du coup.
Allez, vas-y Astrid, ça marche.
Faisons dans l'ordre. Alors moi, du coup, bah, honnêtement, je pense que dans quelques années, il n'y aura pas forcément énormément de changements. Je pense que ce qui va changer, c'est peut-être des nouvelles chroniques, des nouvelles idées de podcasts, ouais, juste des choses nouvelles, peut-être plus d'interactions avec les auditeurs. Je pense qu'il y aura toujours autant de musique. Peut-être qu'il y aura des radios qui seront...
Attends, excuse-moi, quand tu parles de plus d'interactions avec les auditeurs, tu penses à quoi ?
Honnêtement, je ne sais pas, c'est un peu une pensée un peu abstraite.
Est-ce que tu penses que c'est nécessaire qu'il y ait plus d'interactions
en... Ah non, pas du tout. Mais en fait, je pense qu'il y aura sûrement peut-être plus de radios avec un thème particulier, peut-être. Elles seront plus spécifiques. Mais je n'ai pas du tout un rêve de radio tant que la musique est toujours là et que c'est pas, tant que ce n'est pas que de la pub. Voilà, il faut que ça reste quand même de la radio musicale. Pour moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie que ça continue.
Alors, de la radio musicale, il y en a énormément sur Internet, mais je voulais savoir si, est-ce que la proposition qui est faite sur la bande FM te convient, la proposition radiophonique en termes de diversité musicale ?
Non, pas du tout. non, mais c'est pour ça que j'aime bien justement Radio Campus, parce que du coup, on est beaucoup plus libre en termes de choix de musique, et c'est beaucoup plus éclectique, hein, bien sûr. Donc, ça serait bien que justement les radios FM puissent avoir plus de diversité et qu'eux aussi soient plus libres par rapport à la musique. Parce qu'il y a tellement de musique dans le monde que c'est quand même assez ironique. On tombe tout le temps sur les mêmes quand même. Donc ça serait bien, ouais.
Est-ce qu'il faudrait, quand tu disais plus d'interaction avec les auditeurs, auditrices, plus de proximité peut-être entre les radios, les auditeurs, et puis j'allais dire l'émergence de talents locaux. Alors c'est possible avec des radios associatives locales, mais aussi des radios privées qui ont des décrochages locaux. Est-ce que ça serait ça aussi, peut-être faire plus de propositions, j'allais dire, de nouvelles propositions musicales ?
Ouais, carrément, je pense que tout ça pourrait rentrer en compte et ça pourrait vraiment faire un truc sympa. Après, ça existe déjà, hein, je suppose, mais voilà. Après, c'est ce que aussi Finn disait tout à l'heure, c'est vrai que forcément, maintenant, il y a de plus en plus aussi de radios qui passent aussi à la vidéo, et on peut voir plein de vidéos, même sur YouTube, où justement c'est dans le studio de radio, voir des interviews avec des célébrités qui sont déjà quand même assez connues. Et c'est justement ça aussi l'interaction, c'est que du coup, nous, en tant qu'auditeurs ou en tant que public, on a la capacité de voir ce qui se passe derrière les studios. Et du coup, bah, Mélissa n'était pas très d'accord avec moi, mais moi je trouve que du coup, ça c'est intéressant de voir les derrière et ça donne un autre point de vue. Voilà.
Alors, on va pas débattre tout de suite, mais c'est vrai qu'on va y revenir parce que je parle vraiment de la radio du futur concernant la diffusion FM. Mais aujourd'hui, c'est vrai que toutes les radios ont leur équivalent sur Internet. Radio Campus diffuse également sur Internet et on peut télécharger les émissions. On n'est plus sur de la FM, hein, sur ce système de diffusion, oui, qui a existé, qui est, j'allais dire, complémentaire de la FM. Mais quand tu parles, par exemple, d'interviews filmées, est-ce que c'est de la radio ou est-ce que c'est de l'Internet ?
Bah, c'est toujours dans le cadre de la radio, donc je pense que ça reste la radio. Je pense à, par exemple, une radio très connue aux États-Unis aussi qui s'appelle KEXP. C'est vraiment une grande, grande radio. Et tout le contenu qu'ils mettent aussi sur leur chaîne YouTube ou ce qu'il y a sur leur site web, pour moi, ça fait partie de la radio en elle-même. Donc, c'est plus du FM tout à fait, mais ça fait partie de la radio.
Finn, comment est-ce que tu imagines la radio du futur ?
Alors, pour moi, la radio du futur doit être diversifiée. Pas seulement en continu, en fait, en continu, je crois que c'est pas mal d'avoir une identité assez forte, assez fixée, mais plutôt en façon où je peux trouver cette radio. Quand j'écoute la radio, je n'écoute pas vraiment parce que je veux remplir une vide. Il y a autant de choses que je peux entendre pour remplir une vide. Je écoute une radio parce que j'aime les gens qui sont sur la radio. Si je conduis et il y a une radio avec de bonnes musiques et tout d'un coup il y a des gens qui parlent et je trouve que ils sont chiants, je change le chaîne tout de suite. Mais les mêmes gens, s'ils ont déjà fait des interactions avec moi, si j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'ils ont fait une interview avec quelqu'un que j'aime, s'ils ont fait quelque chose d'autre dans cette façon, où je connais que même s'ils ont une personnalité qui me convient pas trop, je vais commencer d'adorer cette émission, même si c'est pas vraiment mon goût, parce que j'adore des choses comme ça facilement. Mais alors pour moi, c'est vraiment de diversifier des choses, aussi de laisser le choix aux auditeurs. Dans ma vie personnelle, je trouve suivant des émissions très fascinantes, mais un peu difficile de vraiment écouter tout le temps. Parce que c'est une heure et c'est jamais pendant un temps qui me convient. Alors si c'est pendant mon trajet et je suis en voiture, oui, je vais écouter tous les jours cette émission. Mais je ne conduis pas vraiment tous les jours, je prends le tram. Alors c'est-à-dire que sur mon téléphone, j'ai 5 autres applications qui avec une compétition et entre la radio où je vais écouter, je vais manquer les premières 5 minutes, je vais écouter la moitié, après je dois partir, et un podcast où je peux écouter, appuyer sur pause, faire les autres choses, après quand je suis sur le tram, réécouter dès le moment où j'étais sans perdre l'information, ça va gagner. En plus, il y a j'ai le choix, je trouve que c'est pour moi, je sais que j'aime quelque chose si j'ai choisi cette chose. Mais quand je vais aux États-Unis, il y a certaines radios qui, même il y a 2 ans où je n'ai pas écouté cette radio, mais c'est la première radio que je vais commencer avec parce que sur Facebook, ils postent des choses. Sur YouTube, il y a des émissions qui ne sont pas toutes les émissions, ce n'est pas comme s'ils font toujours la même chose sur toutes les chaînes, mais il montre qu'est-ce qu'ils ont, la préparation pour un événement. Il montre une photo avec quelqu'un où ils ont fait l'interview. Il montre tous les gens dans le bureau. Il montre le fait d'une fête d'anniversaire, quelque chose comme ça. Et ça rend un aspect humain où j'aime ces gens. Je veux partager mon temps avec ces gens. Qui, avec des autres radios, je trouve que le système en France, c'est un peu différent. Ici, il y a plus les radios, pas tout à fait locales, mais qui sont toujours... Il n'y a pas 2 grandes compagnies qui ont fait une monopolie où toutes les musiques sont diffusées par ces 2 grandes compagnies. Et même tous les... mais aux États-Unis, il y a... Chez moi, il y a 2 ou 3 radios, mais plutôt 2 radios publiques. Nos radios qui sont localisées à Washington. J'habite à la capitale. Alors, si tu habites dans une ville qui n'est pas la capitale, tu n'as aucune radio qui vient de chez toi, sauf NPR, mais c'est plutôt de la musique classique. Mais si tu écoutes de la musique rock suivante, tu n'as aucune radio qui est locale ou même dans le même état, parce que tout est fait en Texas ou Californie, où les goûts sont... Et maintenant, je pense que c'est la raison. Aux États-Unis, les podcasts sont si populaires, c'est parce que les gens en marrent. Ils veulent écouter quelqu'un qui n'est pas seulement Ryan Seacrest in the morning, ou les gens comme ça. Ils veulent quelque chose de précis.
En vous écoutant tous les deux, j'ai l'impression que la radio du futur ne sera pas sans Internet, sans le téléchargement, sans les réseaux sociaux, sans les plateformes de visionnage telles que YouTube. Oui, hein, c'est ce que je crois avoir compris. Hein.
Ah, carrément, c'est, voilà. c'est triste d'un côté, mais c'est obligé de toute façon.
Est-ce que c'est vraiment triste? Parce que alors, regarde tous les autres
pourquoi
choses.
Pourquoi tu dis que c'est triste?
Bah non, bah c'est pas que c'est triste, mais c'est forcément c'est l'évolution. Quoi. C'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie au quotidien, en fait. Et les radios doivent suivre avec ça, même si de base, ça ne fait pas partie de leur fondation, en fait. Donc, c'est aussi aux radios qui sont parfois pas toutes jeunes d'évoluer et de s'adapter aussi au fait que maintenant, il faut faire de la pub ou passer par les réseaux sociaux pour attirer de nouvelles personnes, en fait.
On ne demande jamais ces questions avec des autres choses, comme par exemple, un film sort dans le cinéma, les acteurs, les comédiens vont sortir pour faire des pubs. Ils vont aller sur la télé, ils vont aller sur la radio, ils vont aller dans n'importe quelle direction pour faire la publicité. Et avec le télé même, il y a le télé, ils sont multimodales, ils vont faire plusieurs choses, ils vont écrire des choses. Je ne sais pas pourquoi la radio est coincée dans une boîte où c'est impossible d'aller sur une autre chose. Quand je vois des comédiens sur la télé, je ne dis pas « Ah, c'est... »
Alors non, on parle de radio, on ne parle pas de télé.
Non, mais c'est-à-dire que... Alors, il y a des comédiens qui travaillent, qui ont fait un film. Le film a sorti dans le cinéma, ce n'est pas du télé. Mais après, il va sur la télé. Mais quand je regarde cette émission, des comédiens qui partent sur leur film, je ne dis pas « Ah, pourquoi les comédiens du cinéma sont sur la télé ?» C'est pas... Est-ce que maintenant c'est plus le cinéma? Non. Je dis, ah oui, c'est un pub. C'est une interaction entre les gens.
Mais là, on parle plus vraiment de radio.
Mais moi, par contre, j'étais vraiment
oui.
D'accord avec Finn sur le fait qu'en fait, moi, honnêtement, j'écoute très rarement la radio parce que je ne conduis pas. Et souvent, quand je marche, c'est avec ma propre musique. Donc, c'est vrai que quand je vais sur YouTube et que je tombe sur des émissions qui sont en vidéo tirées de radio qui repassent et qui sont intéressantes et qui m'intéressent, je vais les regarder. Et pour moi, c'est déjà, d'un côté, écouter cette radio-là parce que du coup, je regarde leur contenu. Et je le regarde, mais je l'écoute en même temps. Donc après, c'est pas forcément dans le pays, sur la bande FM, dans la voiture. Mais c'est pour moi déjà soutenir et écouter la radio. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes maintenant. Je pense que beaucoup de personnes écoutent leur musique téléchargée sur iTunes ou Spotify ou sur d'autres plateformes et plus, pas forcément sur la radio, malheureusement. Et donc, du coup, pouvoir retrouver du contenu d'une radio qu'on aime bien, dont on aime bien les valeurs ou les personnes qui y travaillent ou leur identité, bah donc, du coup, ça nous permet de retrouver ce contenu en plus sous une autre forme. Et ça nous permet quand même de soutenir ces radios-là sans forcément être... Voilà.
Moi, j'aimerais bien entendre, si vous permettez, l'avis de Mélissa, la radio du futur. Oh, je t'ai réveillée.
Non, pas du tout. j'écoute ce que disent mes deux co-invités. C'est très intéressant. Moi, j'espère que la radio filmée, ça ne deviendra pas la norme. Parce que ça plaise à certaines personnes, j'entends, hein, c'est pas du tout une critique, ce que je dis, je le précise, parce que les choses soient évidentes, mais j'ai l'impression que si on s'est mis à filmer la radio, c'est parce qu'on voulait vendre des contenus à la télé, et que derrière l'idée, l'obligation peut-être qui est faite aux radios absolument de se filmer, d'être sur les réseaux sociaux et tout, c'est une histoire de communication, et de vendre, en fait, d'être rentable, d'attirer des cibles, d'attirer du public, des clients. Et en fait, je ne le condamne pas, c'est un fait. Mais en fait, j'espère qu'il y aura toujours la place pour des gens qui n'ont pas envie d'être filmés, qui n'ont pas forcément envie de jouer le jeu des réseaux sociaux et compagnie. Et voilà, parce que l'idée d'avoir une pluralité de radios, donc de se dire que chacun puisse trouver quelque chose qui lui parle, du lieu où il vit, du lieu où il habite, qu'il puisse trouver peut-être quelque chose d'international par l'Internet, j'entends bien, mais que ce ne soit pas obligatoirement filmé. En plus, je pense qu'il y a aussi dans le monde encore des régions où les gens n'ont pas les moyens d'avoir un smartphone ou un ordinateur ou même une connexion Internet. Alors qu'est-ce qu'on en fait de... pour eux, c'est bien la radio où il n'y a pas d'image en fait, sur la FM, sur un poste. Pour eux, ça n'a pas de sens, une radio qui est en image. Et voilà, j'ai peur en fait, que si ça n'existe plus, en fait, si on fait une obligation de radio en image, que ça exclut des gens. Et puis, moi, je pense aussi, enfin, je m'inquiète plutôt que de dire, mais à partir du moment où on filme une émission de radio, qu'on le veuille ou non, on fait attention à comment on se tient, on fait attention à comment on s'habille. Moi, mon souci, c'est de me dire, mais qui va être en premier, comment dire, soucieuse de se tenir bien, d'être jolie, bien peignée et compagnie. Mais à mon avis, ça va être les femmes. Et je sais pas, enfin, c'est des questions que je me pose, hein, j'ai absolument pas de réponse, je ne pense pas avoir raison sur tous ces points. Mais voilà, j'ai peur qu'il y ait quelque chose d'excluant. Il y a aussi une chose qui, pour moi, me fait pas trop aimer le radio filmé, c'est que je me dis, mais quand on regarde une vidéo, on est statique. On fait ça et pas autre chose. Alors que quand on écoute seulement les voix, on peut faire plein d'autres choses en même temps. On peut conduire, on peut courir, on peut faire plein d'autres choses. Ce qui ne permet pas de regarder la télé ou une vidéo parce qu'on a besoin d'être fixe. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, la radio sans image est plus mobile. Et je réfléchis en même temps que je vous dis ça. Je voulais dire autre chose qui m'échappe au moment où j'y pense. Non, mais ça me reviendra peut-être après. Voilà, pardon.
Je pense qu'il y a une...
Tu parlais de comment dire, l'aspect passif que les téléspectateurs, enfin, les spectateurs, que les spectateurs ont face à un écran, contrairement à la radio, qui ne nous empêche pas d'être actifs.
C'est une impression que j'ai. Après, bien sûr que tu peux mettre la télé et faire la vaisselle en même temps sans regarder l'écran. Mmh.
Ça se fait beaucoup, même la télé. C'est vrai, oui, qu'on entendait ça chez certaines personnes, en fond sonore.
Ouais, okay. Oui, bien sûr, mais... Donc, bon. Pourquoi pas écouter la radio alors ?
Après, je pense pas que ça deviendrait la norme. Je pense qu'il y aurait toujours en fait des deux. Je pense pas que ça serait la norme. Ouais. Parce que de toute façon, t'as des émissions de radio où, oui, je pense que de filmer, il y aurait aucun intérêt en fait. Parce que par exemple, quelqu'un qui fait une émission d'une heure où il va juste mettre de la musique, en effet, enfin, y a rien d'intéressant à filmer. Si c'est une interview ou si c'est quelque chose où il y a vraiment de l'interaction, tu as des invités ou autre, ça peut être intéressant justement, ou un débat, ça peut être intéressant de voir justement les réactions, les visages des personnes.
J'aimerais avoir vos avis sur la place de la parole. Tout à l'heure, toi, tu nous expliquais, Astrid, que tu n'écoutais pas trop la radio, que tu avais ta playlist, voilà, que c'était pas un média que tu écoutais, parce que ce qui t'intéressait, toi, surtout, c'est la musique, mais la place de la parole. Quand est-ce que tu aimes la radio ? Quel type de parole tu aimes à la radio ?
Pas les interviews d'artistes que j'aime bien.
D'accord.
Mais c'est vrai que si, parfois, les informations, ça peut être aussi intéressant, mais c'est pas la première chose que je vais aller écouter dans la radio. Moi, je préfère avoir quelque chose qui me mettent de bonne humeur, ou tu vois, pas un truc qui me plombe, même si c'est la réalité des choses, hein. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent, hein, à la radio, surtout quand tu es sur la route pour aller quelque part et que tu conduis beaucoup et que tu veux juste écouter de la musique et apprécier la route, parfois avoir de la pub ou des personnes qui parlent, parfois c'est vrai que ça a tendance à... Après, ça dépend du sujet, encore une fois, hein, mais la plupart du temps, je change de radio pour juste avoir l'aspect musical.
Tophine, tu nous as parlé aux États-Unis de programmes que tu écoutais, notamment en raison de ceux qui les animaient, de certains animateurs, de grands animateurs. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un vedettariat même dans la radio aux États-Unis. Selon toi, quelle est l'importance de la parole sur quelle place tu accordes à la radio sur lesquelles, aux radios sur lesquelles il y a des voix humaines ?
Alors là, c'est paradoxal parce que aux États-Unis, quand je parle des personnages, c'est plutôt dans les podcasts. Selon les radios, si on ne compte pas NPR, qui est le radio public, et pas les radios indépendants comme les radios étudiants, des choses comme ça, je n'écoute très rarement les gens qui parlent parce que je trouve que c'est vraiment très frustrant. Il y a des gens qui parlent, c'est toujours les mêmes émissions, même si tu changes chaîne. C'est vraiment, et aussi il y a une culte de le garçon toujours jeune sur la radio aux États-Unis. C'est toujours quelqu'un qui parle, qui est un homme qui a 40 ans, 50 ans, mais il lui comporte toujours comme une gamin de 20 ans. Et je trouve que avec les femmes, c'est impossible pour une femme de avoir le même chance. Alors les femmes, suivant, on dit qu'ils ont les vocal fry, où il parle trop bas et trop, il fait ça. Et si une femme fait ça, même par hasard, tout le monde va être énormément fâché, il va voir des choses. Mais sur les, pour revenir sur la question, pour moi, dans les podcasts, je suis des gens, les personnages qui font les podcasts, même si c'est sur un sujet que je ne m'intéresse pas vraiment, je vais suivre cette personne parce que j'aime la façon où il fait des choses comme un auteur, où je suis des auteurs après les livres. Et je pense qu'il y a énormément d'importance sur l'individualité.
Là, tu parles, oui, carrément, d'une dimension artistique de ceux qui sont dans la création radiophonique, qui sont aux manettes pour réaliser des émissions.
Il y a certains sites qui me plaisent beaucoup, même si le même personne ne va pas utiliser le même style. C'est plutôt comment il pose des questions, comment il parle avec les autres. Est-ce qu'ils sont une bonne... Est-ce qu'il écoute avec une précision? Ça, c'est quelque chose qui m'attire. Je n'aime pas vraiment les choses comme dans le matin, les choses matinales où il faut parler. Il y a des gens autour d'une table qui parlent sur n'importe quel sujet. Pour moi, je comprends pourquoi c'est... Et il y a les autres qui aiment ça, mais pour moi, ce n'est pas vraiment ma chose.
Voilà, ouais. Alors, la radio, c'est évidemment, il n'y aurait pas de radio sans musique, mais il n'y aurait pas de radio sans parole, encore que ça peut exister, évidemment. Tout à l'heure, Mélissa, tu nous avais parlé des premières fois où tu écoutais la radio, c'était France Culture, et que tu avais apprécié justement la place qui était donnée à la parole sur cette station. Selon toi, est-ce que la radio du futur devra revoir la place de la parole sur son antenne ?
Alors je précise que je n'écoutais pas que France Culture, oui. Mais il se trouve que c'est la radio que j'ai préférée tôt parce que donc il y avait des voix d'une part et parce que j'apprenais beaucoup 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 de choses en écoutant la radio, et ça m'est même arrivé parfois de me faire la réflexion que, tout bien considéré, j'apprenais plus de choses en écoutant la radio qu'en m'ennuyant à l'école. Mais bon, ça n'engage que moi. Peut-être que j'ai un peu grandi depuis.
C'est alors... complémentaire, c'est bien.
On peut dire ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors oui, la place de la parole. Enfin, j'écoute ici les deux autres invités. Et moi, il y a quelque chose qui revient en fait dans ce que j'entends, c'est l'idée de j'écoute la radio quand j'ai besoin. J'arrête d'écouter quand je suis occupée ailleurs et je veux trouver des choses qui me plaisent à moi. Il y a l'idée de cette idée de radio sur mesure en fait, d'adapter les contenus à moi, ce que je veux moi, maintenant, tout de suite. Et alors, c'est pas une critique, mais moi, ce que j'aime dans la radio, c'est aussi l'idée de communauté. Le côté magique de dire, tiens, j'allume mon poste à cette heure-là, je ne sais pas qui, mais dans le monde, ou sur Terre, ou dans la ville, ou même dans la maison, il y a quelqu'un d'autre qui écoute la même chose au même moment. Il y a ce côté magique, en fait, de se dire que ça crée une espèce de groupe humain, de gens qui écoutent en même temps. Et non pas que ça n'existe pas, une communauté de gens qui écoutent des podcasts, bien sûr que si, que ça existe. Mais c'est, comment dire, c'est un temps éclaté. C'est pas un temps uni, en fait. C'est un temps qui est décomposé en plein de petites, comment dire, en plein de petites paillettes. Je sais pas comment trouver d'autres mots, mais il n'y a pas un tout, en fait. Et je sais pas, en fait, est-ce que... ça change rien, ou est-ce qu'en fait ça sépare les gens au lieu de les rassembler? Je sais pas du tout. Après, peut-être que j'ai une idée un peu vieillotte et un peu stupide, mais en tout cas j'avais l'idée que la radio, c'était pour créer du lien entre les gens.
Excuse-moi Finn, vas-y.
En fait, ça c'est une risque avec les podcasts. Je crois que c'est quelque chose qui manque. Maintenant aux États-Unis, ils sont en train de faire des networks de podcasts. Parce que quand tu fais quelque chose toute seule dans ta maison et tu lances ça sur Internet et tous les gens écoutent toute seule à des temps différents, il y a un sens de community qui n'est pas là, qui en veut. En France, je vois que les podcasts sont moins populaires et je crois que c'est parce que ici, la radio, c'est toujours plus ou moins communautaire. France 3 ou non, France Bleu, c'est sur la région centre. Et la raison que le podcast est très populaire aux États-Unis, c'est parce que nos radios, c'est pas communautaire de tout.
Après, je trouve aussi que... Enfin, je pense que plus on va aller dans le futur, et toutes les plateformes vont devenir de plus en plus faites en sorte que ça soit fait pour nos propres goûts. Hein, ça l'est déjà. Hein. Quand tu vas sur Netflix, tu as déjà une partie recommandée pour vous. Quand tu vas sur YouTube, recommandée pour vous. Donc peut-être que ça va être la même chose aussi avec les podcasts de radio ou les radios, en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura juste un petit peu de tout. En fait, il y aura des radios qui vont vraiment être... qui auront leurs auditeurs dédiés. Et il y aura toujours ce sens de communauté. Et après, il y aura aussi de plus en plus de gens qui vont vraiment écouter un petit peu tout ce qu'ils veulent un petit peu partout. Et que c'est pas forcément être pensé qu'à soi-même ou autre, mais c'est juste une autre forme de divertissement, et les gens du coup vont juste se mettre à écouter ce qu'ils ont envie d'écouter, quoi.
Alors, faut pas qu'on s'écarte du sujet. On parle de la radio du futur. Il y a plein d'autres thèmes, en fait, qui dépassent celui de la radio, là, qui sont abordés.
Mais excuse-moi, je pense, en fait, ce qu'on dit, c'est tous les trois, c'est qu'en fait la radio du futur, elle va ressembler à ce qu'on a envie de faire de notre société. C'est une image, en fait, du monde. C'est une image de notre monde, la radio. Et donc, elle va ressembler à ce qu'on a envie qu'il soit. Moi, je crois.
Oui, aussi, la radio, c'est FM.
Tu penses vraiment ? Alors, je ne sais pas. Je vais faire un petit retour en arrière. La FM, au début, qui n'était que des ondes hertziennes, hein, d'accord ? Il n'y avait pas Internet, etc. Ce que les technologies permettent aujourd'hui, par exemple, moi j'ai beaucoup consommé de FM quand j'étais plus jeune, et il y a des émissions que j'ai loupées parce que j'étais en cours, voilà. Donc aujourd'hui on peut retrouver des programmes qu'on apprécie et qu'on a loupés grâce à Internet. Comme tu le disais aussi, Astrid, à un moment, c'est vrai qu'on peut retrouver sur l'application Internet des radios la playlist, les noms des artistes, un peu plus d'infos. C'est augmenté parce que c'est vrai que des fois on entend des titres à la radio, en ces jours de grève c'est souvent le cas d'ailleurs, et on ne sait pas forcément le nom des artistes ou alors le nom de la chanson qui a été diffusée. Voilà, donc ça a amené ça, c'est des innovations techniques. Et puis donc parallèlement sur Internet, il y a tout le système d'algorithmes qui permet de savoir que vous avez écouté tel artiste tel jour, que vous êtes allé voir tel film tel jour, etc. Et donc après qui font des recommandations un petit peu, selon parlait Mélissa, sur mesure pour chaque auditeur, auditrice. Et là ça fait quelque chose, on n'est plus dans une communauté, mais quelque chose d'individuel, de très éclaté, en autant d'individus qui composent la société. Vous aviez parlé aussi en début d'une émission, d'une radio qui serait plus proche des auditeurs, auditrices. On a aussi évoqué durant l'émission, des fois une parole qui ne nous concerne pas, et c'est peut-être là aussi l'intérêt de l'écouter, parce que ça nous fait découvrir des choses qu'on ne connaîtrait pas si on n'avait pas écouté ce programme qui a priori ne nous concernait pas, parce que ça ne parlait pas de nous, mais ça parlait d'autres personnes. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Comment essayer de créer ce lien ? Comment est-ce que la radio pourrait créer ce lien entre les auditeurs qui sont éclatés en autant d'algorithmes ? Est-ce que la radio peut jouer un rôle ? En plus, j'ai une réponse à ça, je vous pose la question, mais je vous parlerai de ma réponse après.
Pour moi, je pense que c'est le rôle de la radio de couper cet algorithme. Si j'avais un travail plus fixe ou quelque chose comme ça, où j'avais vraiment mon emploi du temps, je crois que je vais écouter plus de la radio. Mais comme j'ai tout un peu en flou, j'aime plutôt des podcasts parce que je suis passionnée par les choses que les gens disent, et après il faut que je coupe et je vais, voilà. Mais je pense que c'est le rôle des radios être dans la communauté, de montrer que les gens peuvent avoir une voix, de montrer aussi l'humanité de ces voix. Avec le télé, suivant, c'est un peu comme c'est trop professionnel. C'est un peu difficile de faire ça. Alors les gens, ils viennent avec leurs appareils photo, ils prennent des vidéos, ils font un petit commentaire, mais c'est toujours le reporter qui parle. Sur la radio, c'est différent. Et je pense qu'il faut garder cette différence avec plus de force possible.
Est-ce qu'on pourrait, alors quand je vous dis que j'avais un élément de réponse, parce que je pensais à ce que font certaines radios associatives, puis même d'ailleurs des radios de service public, qui font beaucoup de décrochages autour de leur antenne. C'est-à-dire que la radio ne se déroule pas totalement en studio. Il y a beaucoup, c'est possible maintenant avec Internet, beaucoup de décrochages locaux dans des scènes de concert, dans des manifestations. Ça serait développé ça peut-être aussi ? Est-ce que ça serait plus attractif pour vous ? Est-ce qu'une radio qui serait vraiment locale, mais dans la mesure qu'elle est, donc, comme c'est le cas avec Radio Campus, mais en développant encore plus cette mobilité, est-ce que vous pensez que ça... Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous ?
Oui. Oui, c'est suivant...
Parce que pour rejoindre ce que tu es en train de dire, Fine, en ce moment, donc, c'était il y a quelques jours, on va dire voilà, c'était les 4, 5 et 6 décembre sur Orléans, il y a eu la Caradoc qui est venue, donc ce sont 4 personnes qui font partie d'une association issue de l'école de Créadoc à Angoulême. Et donc la Caradoc permet de faire de l'immersion radiophonique en allant directement chez l'habitant dans le quartier de la structure et de donner, comme tu le disais, la parole à des personnes qui ne sont pas professionnelles de la radio et de restituer leur parole, donner cette place à la parole. Alors n'hésite pas à intervenir, hein, Mélissa.
Oui, alors puisqu'on me propose, j'interviens. Bon, alors je tiens, ça n'a pas trop de rapport à ce que tu dis, Daniel, pardon, je m'en excuse, mais tu me donnes la parole, donc je l'attrape au bon.
Je te la laisse, tiens.
Non, je tiens juste à dire que je suis très contente en fait, d'échanger avec Fine et Astrid, parce que je me dis, c'est super, on n'a pas le même point de vue sur la question. Et en fait, ça me rassure, parce que mon angoisse perpétuelle, c'est qu'on finisse par tous penser la même chose sur tout. Et ça, pour moi, ce serait vraiment atroce. Donc je suis très contente d'entendre qu'on n'est pas d'accord. Et je suis aussi contente de savoir, parce que vous avez écouté la radio à l'étranger, ailleurs, et tout ça, vous avez tout à travailler, en plus, à la radio, ailleurs. Et en fait, de dire, mais il y a... Enfin, ça n'a rien à voir, la radio aux États-Unis et en France. C'est complètement différent de ce que je comprends, de ce que tu dis. Et c'est rassurant. De se dire qu'il y a, comment dire, ça me conforte dans l'idée que la radio continuera à être multiple. Moi, j'espère.
Alors moi, c'est mon angoisse. C'est pour ça. Alors c'est bien que évidemment.
En fait, c'est des angoisses de vieux. C'est pour
mais
ça.
Mais oui, peut-être. Non, mais je vais t'expliquer, parce que effectivement, c'est super cette diversité d'opinions, et tant mieux qu'on soit pas d'accord. Mais si on veut construire une radio du futur, j'allais dire nous quatre que nous sommes, quoi, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Voilà. Est-ce que moi, ma grande crainte, c'est que des radios associatives qui ne sont non commerciales, qui n'ont aucun intérêt lucratif, encore moins pour, j'allais dire, tous ceux qui boursicotent, soit risque de disparaître avec, par exemple, l'apparition de nouvelles normes de diffusion, je pense à la RNT, ou alors cette radio filmée qui n'est plus de la radio. Il faut savoir qu'il y a quand même 1 million d'auditeurs en moins. Il y a 1 million de personnes qui n'écoutent plus la radio en France. D'accord ? Ça, c'est une réalité. Donc, voilà, d'où mes angoisses pour l'avenir. Rassurez-moi, essayez de me rassurer là. Vas-y, Fine.
Je crois qu'il y a des compromis. Par exemple, je pense que la radio directement filmée, vraiment en direct et aussi de filmer, ça ne marche pas. Quand je crois de la multiplicité des formes de radio, c'est plutôt comme maintenant avec des livres. Les livres, c'est toujours un livre physique. Mais quand tu... Moi, je suis des auteurs qui sont sur Tumblr, qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ne diffusent pas leurs livres sur les réseaux sociaux, mais ils diffusent des aspects de leur vie. Alors, je peux voir le travail qu'ils font. Ça rend un élément qui est plus dynamique avec le livre. Il y a des petits challenges, il y a des petites choses communautaires de dire qu'est-ce que tu aimes, ouais, etc. Pour moi, ça, c'est la chose que j'aime. C'est pas de voir vraiment des gens qui parlent, mais de voir une photo de la salle, de voir une petite vidéo de les gens qui font quelque chose de bizarre. Parce que si c'est tout identique, si on diffuse quelque chose sur FM et en plus on diffuse sur YouTube, c'est un peu nul. On a diffusé la même chose 2 fois. Mais c'est possible de faire un compromis, de faire dire oui, c'est une radio qui est audible, c'est pas une vidéo, mais aussi de dire oui, mais on a des appareils photo, tout le monde, on peut, même si c'est pas des personnages qui sont photographier, on peut dire, regarde tous nos vinyles, regarde, on a des super tables pour tourner les vinyles, des choses comme ça que dans ma vie, je ne vois pas suivant. Et après, ça m'intéresse, je veux dire, est-ce que je peux essayer ça, je peux faire ça. Si je ne connais pas les choses qui existent dans mon radio local, je ne sais pas que je peux participer.
Mmh. Astrid, toi tu aimes beaucoup la musique, le rock psychédélique par exemple, donc j'imagine que les algorithmes d'internet te pistent justement et te font des recommandations, des suggestions pour toi. Mmh. Est-ce que tu ne risques pas de tourner en rond dans des suggestions qui te sont faites et qui t'empêchent de faire des découvertes qui ne font pas partie, qui ont échappé à ces algorithmes parce que trop méconnus, pas assez vendus?
Après, je t'avoue quand même que je creuse bien.
Il faut creuser, comment tu fais? Est-ce que les radios peuvent... Est-ce qu'il y a des programmes, par exemple, que tu écoutes où les animateurs te dégotent pour toi des petites pépites que tu n'avais pas trouvées par ailleurs?
Non, pas trop, honnêtement. Mais c'est vraiment... Il y a plein de choses. Hein. Soit je vais... Soit quelqu'un va me recommander un album que je vais aller écouter. Ou alors, tu sais, quand tu aimes bien un artiste sur Spotify, par exemple, tu peux aller voir aussi des artistes similaires. Après, tu vas voir d'autres albums, tu vas voir d'autres artistes similaires. Mmh. Tu creuses encore, tu vas voir encore d'autres artistes similaires. Tu vas voir tous leurs albums.
Mais t'écoutes pas des programmes radio dédiés justement à ce genre, non?
Non.
D'accord, ça te
permet de... Non, mais honnêtement, je devrais. Hein, mais je pense qu'en fait, tout ce que je dis, c'est aussi par un manque de recherche. Parce que je suis sûre qu'il y aurait... qu'il y a plein de podcasts qui pourraient vraiment beaucoup m'intéresser, hein, mais je sais pas si c'est par être un petit peu paresseuse, je pense qu'il y a un petit peu de ça, hein, c'est parce que je fais d'autres choses et parfois j'ai juste pas le temps d'aller rechercher des nouvelles choses et j'ai un petit peu mon confort dans ce que j'ai l'habitude de faire et je vais pas rechercher des nouvelles choses, mais c'est vrai que non, j'écoute pas d'émissions de radio ou de podcasts, ouais.
Mélissa, à Tours, vous développez pas mal de projets où vous allez, auprès des habitants, auprès de la population pour je peux vous libérer, hein, Finn et Astrid, vous avez des cours. Récolter de la parole. Merci. Et comme le disait Finn tout à l'heure, entendre de la parole de vrais gens, de vraies personnes dont ce n'est pas le métier.
Alors pardon, je n'ai pas entendu ta question puisque nos...
Alors, je mélange les mots, mais je vais te donner des mots et j'aimerais que tu...
Alors
me
attends,
fasses...
juste avant, je voudrais juste réagir pour que ce soit au bon endroit dans l'enregistrement, sur ce que disait Finn, l'idée de radio augmentée, en fait, dire que les nouvelles technologies, ça ne doit pas supprimer la radio FM, la radio mobile sans voix, mais au contraire l'augmenter en proposant d'autres contenus. Donc c'est additionnel, c'est pas à la place d'eux, mais en plus. Et là, cette idée-là me semble assez séduisante, de dire que l'idée, c'est pas de refaire ce qui est déjà sur la FM, mais de trouver autre chose, une autre expression parallèle, ni meilleure ni moins bonne, hein, c'est pas la question, mais en tout cas parallèle à ce qui est à l'antenne. Ça je trouve ça intéressant. Plus que de dire qu'il faut absolument remplacer la radio sans images par une radio filmée. Et puis, dans l'idée de... est-ce que c'est une obligation de devenir tous des radios filmées, de faire tous pareil? Eh bien, si ça le devient, à mon avis, une partie des radios va redevenir pirate. Il y aura des radios, comme on a pu en avoir dans les années 70-80. Parce que même si on supprime le FSER, par exemple, donc c'est-à-dire que potentiellement toutes les radios associatives, en tout cas une grande partie, disparaîtraient. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui trouveront d'autres moyens de faire de la radio.
Ils existent déjà, ces gens. Hein.
Bien sûr.
Ils ont déjà trouvé les moyens.
Bien sûr.
Et ils sévissent.
Bien sûr.
Mais on ne les connaît pas.
Et non.
On ne donnera pas de nom.
Non.
Oui, une radio plus proche de ses auditeurs, auditrices. J'évoquais le travail d'immersion radiophonique qui est réalisé là par ces quatre membres de l'association Caradoc qui sont aux quatre coins de l'Hexagone pour capter de la parole d'habitants, de la vraie parole, de vraies personnes qu'on n'entendrait pas. Il y a un vrai problème de représentation à la radio, d'égalité par exemple, des catégories socio-professionnelles, il y a peu d'ouvriers. Il y a moins de femmes que d'hommes, enfin dans les médias en général. Encore que non, la radio, les femmes s'en sortent pas trop mal. Est-ce que la radio... J'ai pas formulé de question là. La question, voilà, une radio qui serait beaucoup plus le reflet de la réalité. Voilà, c'est parce que je pensais au travail que peuvent faire certaines radios associatives en faisant des ateliers auprès des habitants. Je sais pas, est-ce que radio, réalité, je te donne quelques mots en vrac et je te laisse improviser là-dessus. Radio, réalité...
C'est presque de l'oulipo.
Radio, réalité. Alors quelle réalité? Non, elle n'est pas terrible, ma question.
Moi, je me méfie toujours de ce qu'on met derrière l'expression « les vrais gens ». Qui parle de vrais gens?
Alors, je parlais de ceux qu'on n'entend pas, justement. De ceux qui... Bah, alors, quand je parle de vrais gens, je vais m'expliquer un petit peu.
Bah oui, parce que tu vois, des vrais gens, si c'est ceux qu'on n'entend pas, bon, il y a tous les gens des quartiers populaires alors, et compagnie.
Je pensais par exemple à un ministre du Travail qui n'a jamais mis les pieds à l'usine. Voilà, alors il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent à l'usine. Quand je parlais de gens, c'était la majorité de la population, quoi. Qui n'est pas forcément représentée par ses élus, et ni même dans les médias, voilà, où on voit des animateurs, animatrices en costard-cravate, parler un langage soutenu aussi ou courant, alors que certaines personnes, j'allais dire, qui sont tout à fait aussi humaines que toi et moi, ne maîtrisent pas et vont plutôt parler un langage familier au quotidien, par exemple. Hein, c'était ça, ce à quoi je pensais.
Ah oui, non, mais parce qu'après, sinon, les gens auxquels on ne donne pas forcément la parole sur les grands médias, ça peut aussi être les gens extrêmement riches, toi, les ultra-riches, après tout.
Oui, mais je pensais aux détenus, par exemple.
Aussi, mais tu vois, il n'y a pas d'atelier radio pour ultra-riches, ça n'existe pas. Donc moi, c'est pour ça que je me méfie toujours de qui parle d'invisibles, d'empêchés, de personnes qu'on n'entend pas. Je me méfie, parce que je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu politique derrière ça, tu vois? Est-ce que ce n'est pas à visée électorale d'aller mettre en lumière certaines personnes dont on se fiche un peu en temps ordinaire? Après, évidemment qu'il y a des radios associatives qui d'elles-mêmes, et avant même qu'il existait un quelconque système d'aide et de subvention, on fait ce travail par conviction, par intérêt profond pour ces personnes-là et qui n'ont pas attendu qu'il y ait un soutien financier. Même si, évidemment, ce soutien financier est extrêmement précieux parce que faut manger. Et que plus ça va, plus les radios associatives, je crois, se professionnalisent. Et donc, ça ne fonctionne plus qu'avec des bénévoles. Donc, les personnes qui font ces ateliers... faut les payer, donc il y a besoin d'argent, même pour acheter du matériel ou des choses comme ça. Mais oui, je pense qu'il y a quand même des lieux où c'est pas la préoccupation première, en tout cas, de gagner de l'argent en donnant la parole à. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, sinon que sur l'idée de comment on fait une radio ouverte à tous, proche des citoyens, moi j'ai envie de dire, on a la radio qu'on mérite. Ta radio sera ce que toi tu en fais.
Alors c'est, on a que la radio, on va dans la méritocratie. Alors
non, ça n'a rien à voir.
Non, mais parce que j'ai envie de dire que il y a des personnes qui ont peur de la radio, de parler dans un micro, de s'exprimer, surtout parce qu'on ne les écoute jamais et qu'elles font partie de ces invisibles. C'est un peu ces personnes-là dont je parlais. Je pense à par exemple la jeunesse des quartiers qui serait même défiant vis-à-vis des médias et à qui il faut montrer patte blanche quand on leur tend un micro parce qu'on n'est pas comme ces journalopes des merdias, comme dirait des partis d'extrême droite, par exemple, qui vont décrier cette jeunesse, justement, et qui ont toute leur place, d'ailleurs, sur les antennes. Hein, je pense à Graziani, qui fait partie de l'Incorrect, un journal d'extrême droite, qu'on laisse s'exprimer à l'antenne. Alors, le petit jeune à côté de ça, ou la mère de famille monoparentale, elle, on ne lui demande pas souvent son avis et son petit commentaire sur la réalité. Donc, il y a un travail d'accompagnement. Alors, pas d'accompagnement, j'allais dire, on ne va pas voir toujours de l'éducatif, mais peut-être d'aller vers les personnes, leur expliquer comment ça marche. Ça a été le cas du Bondy Blog sur Paris, des ateliers que les radios associatives peuvent mener, justement, faire découvrir le matériel, la technique, l'interview, pour permettre peut-être à ces personnes de se saisir de ces outils et de construire la radio du futur, qu'elles méritent.
Oui, là on est dans le transfert de compétences. Je pense que c'est un positionnement qui n'a rien à voir. Tu vois, entre j'arrive en tant que journaliste, je sors mon enregistreur, alors racontez-moi vos malheurs, dites-moi comment c'est horrible de vivre dans tel quartier, qu'on vous plaigne bien, on mettra ça à une grandeur d'écoute et basta, on aura la paix. Entre faire ça et puis apprendre aux gens à se servir du matériel pour qu'il soit, comment dire, je ne sais pas si on comprend ma pensée, si je dis être auteur de sa parole. Avec une idée de donner pouvoir aux gens, d'avoir un contrôle sur ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Et oui, vraiment, je pense qu'il y a une idée de donner pouvoir aux gens, de s'exprimer et de comprendre que leur parole compte autant qu'une autre et qu'elle a sa place et qu'ils peuvent prendre de la place. Et je pense que la radio, il y a cet enjeu-là. Comment dire, il y a des projets d'éducation aux médias. Il y en a plein. En plus, maintenant, comme il y a des fonds qui ont été mis là-dessus, il y en a d'autant plus. Et alors, ce serait extrêmement prétentieux de ma part de dire ça, c'est un bon projet, ça non, ça oui, ça non. Voilà, qui je suis pour juger de ça. Après tout, ça fait pas 30 ans que je fais de l'éducation aux médias, donc ce serait un peu prétentieux. Il n'empêche que les motivations des personnes qui font de l'éducation aux médias ne sont pas les mêmes. Quel est mon objectif quand je fais de l'éducation aux médias? Est-ce que c'est parce que j'ai une conviction, quelle qu'elle soit, de dire c'est important que ces gens-là aient la parole de façon autonome.
La radio du futur, une radio plus proche de ses auditeurs, et puis transmettre, on parlait de transmettre justement, elle est très bien, j'ai eu la réponse à ma question, je ne me rappelle plus, mais que les personnes soient auteurs de leurs paroles.
Enfin, il y a aussi l'idée que les gens puissent eux-mêmes mesurer ce qu'ils veulent dire, comment ils veulent le dire, et pas qu'on leur fasse dire. Quelque chose qui me gêne énormément dans cette espèce d'idée comment dire, de forcer les gens à raconter.
Oui, oui, oui.
S'ils n'ont pas envie. Et puis mince, ils ne se résument pas à être... sauf s'ils en parlent d'eux-mêmes. Mais pourquoi est-ce que j'irais forcément... moi, je n'interviens pas en maison d'arrêt. Mais pourquoi est-ce que j'irais forcément faire parler des prisonniers sur le fait d'être prisonnier? Peut-être qu'ils ont envie de faire une émission de musique ou de foot. Peut-être qu'ils écrivent, qu'ils ont envie de faire du slam. C'est pareil dans un quartier. Pourquoi je les ferais forcément parler du fait d'être arabe ou noir? C'est idiot, ils sont français aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne parleraient pas d'autre chose? Voilà,
Dépasser soi-même, ça je comprends bien. Pour faire des ateliers, ce que j'écarte à chaque fois quand les personnes me font des propositions, ce que je veux surtout pas, c'est qu'elles parlent, j'allais dire, de ce qu'on pourrait penser qu'elles sont. Ça va être un petit peu plus compliqué. Non, je vais revenir sur quelque chose que tu disais, on parlait de transmettre. Alors il y a tout un aspect professionnel, effectivement, il y a des personnes qui vivent des médias. Des journalistes, des preneurs de son, des techniciens, des administrateurs, etc. Y a un aspect professionnel et certaines personnes en vivent bien. Mais il y a ce côté aussi amateur où il y a aussi la dimension amateur de personnes passionnées, pas forcément passionnées par l'outil radio, mais passionnées pour faire des rencontres, ni par l'argent, mais passionnées par exemple pour faire des rencontres, passionnées de nouvelles découvertes, passionnées de partage, et qui ne veulent pas faire de la radio dans un but économique. Est-ce que, justement, on pourrait imaginer de nouvelles formes de radio, parce que tout ça est très standardisé. Toutes les heures, en général, les émissions commencent à 14h, 15h, 16h. Il y a aussi des plages, j'allais dire, qui sont dédiées en fonction des auditeurs qui pourront les écouter. Une interview, ça ne doit pas excéder 59 minutes, parce qu'après, il y a une émission qui passe après, etc. etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un peu bousculer tout ça? Je ne sais pas si tu as ton avis sur la question.
Est-ce que vous avez votre avis sur la question?
Est-ce que c'est pas trop formaté tout ça? Est-ce que c'est pas trop professionnel?
Je sais pas, on en revient à la même question. Est-ce qu'on a envie de faire quelque chose qui marche en communauté? Est-ce qu'on a envie d'être une communauté de gens qui utilisent un même média radio? D'être tous, un maillon de la radio? Est-ce qu'on a tous envie également, équitablement, de participer à la vie d'un média? Ou est-ce qu'on a envie de faire chacun pour sa gueule et puis je m'en fous du créneau d'émission des autres, tu vois? Moi je sais pas en fait comment on fait si j'ai trois adhérents qui veulent tous les trois faire une émission d'une heure un soir en semaine. Comment je fais? Pourquoi est-ce que un tel aurait droit à 2 heures d'antenne et lui tant pis pour lui, il avait qu'à arriver avant? Tu vois, pourquoi en fait qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que chaque parole a même valeur? Auquel cas, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas un temps d'antenne équitable en fonction du temps bénévole qu'ils peuvent y consacrer? Je sais pas, tu vois, moi je... Parce que l'idée de dire, ah, c'est poussiéreux qu'il y ait une grille d'antenne, qu'il y ait un fonctionnement, c'est ça que tu me demandes.
Alors, par exemple, une grille d'antenne, et puis même après, dans la manière de mener une interview, où en général, on commence par présenter les invités, le sujet, pause musicale, et puis à la fin, synthèse, conclusion, remerciement, passage d'antenne, émission suivante. Est-ce qu'on pourrait pas aussi être, puisqu'on parle de, on parlait de création radiophonique, de création sonore, imaginer aussi de nouveaux formats d'émissions et même de contenu, de présentation, d'animation
Mais ça...
Qui existe déjà, alors il y a des personnes déjà, qui les inventent, mais dans cette société mercantile, on est quand même, on reste toujours dans du standard avec le flash d'information toutes les heures, les invités sont triés sur le volet...
Bah, pas dans les radios associatives.
Pas dans les radios associatives, mais je parlais des radios qui sont majoritairement écoutées par les auditeurs et auditrices.
Je ne me sens capable de parler que des radios associatives parce que je n'ai jamais travaillé dans une radio commerciale ou dans une radio nationale. Donc je serais en peine de dire, de donner des directives, des idées à ces radios. En plus, parce que je n'écoute pas les radios commerciales. Donc, ce serait difficile pour moi d'avoir la prétention de trouver de bonnes idées pour ces radios-là, parce que je ne les écoute pas.
Pas forcément commerciales, mais sur le service public aussi.
Mais ça, sur le service public, c'est quoi ta question ? Parce que, du coup,
est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, réinventer, j'allais dire, même tout détruire et, en fait, ce n'est pas vraiment une question, non, parce qu'on va laisser le service public où il est... Si ça ne va pas très bien, restez
cela
les gars.
Dit, France Culture a considérablement augmenté ses auditeurs, même s'il y a eu moins d'auditeurs généralement en France. Donc, toi, j'ai envie de dire que peut-être que ce mode de fonctionnement qui peut sembler un peu poussiéreux, de flash info, de machin, de choses qui s'alternent à des heures fixes, mais ça marche, puisqu'il y a plus d'auditeurs, puisque les gens viennent chercher ça. Et après, de mettre des codes de radio. Mais c'est là aussi une façon de s'en affranchir. Parce que du coup, à partir du moment où tu dis le cadre de l'émission, c'est une heure, il faut dire quatre fois dans l'heure, vous écoutez telle chaîne, il faut faire des pauses musicales, des jingles, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche de jouer avec ces codes ? Rien. Et je pense que dans les radios associatives, on se donne à cœur joie. Dans les émissions, je pense à notre émission de sport, à Radio Campus Tour, ils font des jingles à la bouche. Tu vois, ils font leur... Ils font leur jingle, tu vois, le débat, par exemple, il y en a un qui chante « Débat, débat, ouh, ouh, ouh !» Et c'est ça leur jingle. Et donc, il y a bien les jingles aux beaux endroits et tout, mais c'est pas des trucs enregistrés. Et bien sûr que la radio, en tout cas au niveau des radios associatives, elle joue constamment avec ses normes. Elle joue à être de la radio académique, si on peut dire. Parce qu'on a aussi à Tours une émission de théâtre d'improvisation qui s'appelle Les Improgrammables. Et en fait, c'est des faux journalistes. Ils jouent à être des journalistes. Et ils font du théâtre d'impro en étant des faux journalistes. Donc bien sûr qu'on joue constamment avec ces codes. En tout cas, sur les radios associatives.
Il n'y a pas de sucre, mais je sais que tu bois ton café sans sucre.
Ouais.
Je te propose qu'on arrête l'émission là. C'est
d'accord.
Pas mal quand même, ok ?
J'ai dit beaucoup de conneries. Hein.
Comme d'habitude, toujours.
Oui, mais c'est les radios associatives.
Allez, je ferme.